Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler de la projection d'un film de Jérémy Gravaya qui s'appelle Les Hommes debout, une première projection sur Paris. C'est un film qui parle de lutte ouvrière, de lutte d'immigrés à Lyon et qui sera projeté au Cinéma 104 le vendredi 22 octobre à 20h15. Le Cinéma 104, je le rappelle, donc c'est métro ligne 5, église de Pantin à Pantin, 104 avenue Jean Lelive. Et le tarif de la projection, c'est 4 euros, mais une boisson vous est offerte à l'issue de la projection. Alors, ce film sera accompagné par la présentation de deux personnes, Tanguy Perron, qui est chargé du patrimoine audiovisuel à Périphérie, ainsi que Laure Pitty, qui est maîtresse de conférences en sociologie à l'Université Paris 8, et qui est une spécialiste des démobilisations des travailleurs immigrés. Alors, pour nous présenter ce film, on a au téléphone Laure Pitty, hein, qui va nous présenter à la fois le film qu'elle a déjà pu voir et l'objet de ce film qui porte donc sur des mouvements de travailleurs. Laure, est-ce que tu es...
Oui, je vous entends, bonsoir.
Bonsoir, merci beaucoup Laure Pitty. Donc, est-ce que tu peux nous présenter brièvement l'objet de ce documentaire?
Oui, très volontiers. C'est un documentaire, comme vous l'avez présenté, de Jérémy Gravaya, donc... cinéaste et jeune documentariste qui revient sur ces mobilisations de travailleurs immigrés des années 70 et plus particulièrement sur celle de l'usine Penaroya de Lyon dans le quartier de Gerland. Penaroya, c'était une usine métallurgique qui retraitait du plomb à partir des vieilles batteries de voiture. Alors, ce qui est très intéressant, enfin, avant d'en venir peut-être à ces mobilisations-là, c'est le film qui est projeté pour la première fois à Paris, donc vous l'avez dit, le vendredi 22 octobre au Ciné 104 à Pantin. C'est la façon dont un jeune documentariste, très jeune documentariste, fait un film vraiment d'auteur qui peut être parfois surprenant pour les militants en termes esthétiques parce que c'est un très beau film, mais c'est un film à thèse aussi. Et donc un vraiment très beau documentaire que moi j'ai trouvé très marqué par la façon que Jérémy Gravaya a dû faire du cinéma, mais à la fois un film à thèse, donc sur ces mobilisations, avec un scénario qui fonctionne vraiment à partir de témoignages des ouvriers de l'époque. Donc je ne veux pas trop dévoiler ce qu'il y a dans le film, parce que sinon personne ne viendra le voir, mais c'est assez intéressant de voir comment il est reparti des archives, des témoignages des acteurs de l'époque et notamment d'un des délégués de la grève pour faire son propre film autour de ces figures d'hommes debout, c'est-à-dire de ces figures d'hommes qui résistent à l'oppression patronale, à la maladie, etc.
Justement, voilà. Toi, tu as travaillé ou tu travailles encore sur cette grève de Penaroya. Tu peux peut-être en dire un mot parce que c'est une grève qui a été importante dans l'histoire sociale en France.
Ah bah oui, non, ce sont plusieurs grèves. Et en fait, c'est un mouvement qui dépasse les grèves. Donc si on veut le présenter brièvement, donc Penaroya retraite le plomb ou produit du plomb dans des mines. C'est un groupe qui est devenu après Metal Europe à partir de 88, ce qui parle certainement encore plus aux auditeurs. Mais dans les années 70, donc Penaroya, dans ses différentes usines, retraite du plomb. Et il y a une première grève à Saint-Denis en 71, dans l'usine donc Penaroya de Saint-Denis, puis une deuxième grève dans l'usine de Lyon, dans le quartier de Gerland en 1972, qui sont des grèves qui ont beaucoup, beaucoup marqué les esprits parce que ce sont des grèves faites par des travailleurs immigrés. Alors, dans ces usines-là, il y avait comme manœuvre ou comme ouvrier spécialisé, c'est-à-dire directement sur la production, 90 à 95%, voire dans certains secteurs, 100% de travailleurs immigrés originaires du Maghreb. Et moi, ce qui m'intéresse tout particulièrement, alors outre le caractère marquant hein, pour l'époque de travailleurs immigrés faisant grève, parce qu'on a trop souvent dit qu'ils ne le faisaient jamais, ce qui est complètement faux dans cette décennie-là, et depuis on le sait très bien d'ailleurs avec aujourd'hui les mouvements de travailleurs sans papier. Mais ce qui est très marquant aussi dans ces deux grèves, c'est combien la question de la santé à l'usine est omniprésente et combien des ouvriers immigrés se saisissent de la question de la santé pour dire notre santé n'est pas à vendre. Et ça, c'est quand même très nouveau dans cette décennie des années 70, et c'est ça qui, moi, m'intéresse particulièrement dans ces grèves. Et le film le montre, le film le montre, parce que c'est évidemment un thème omniprésent, c'est dans les cahiers de revendications très 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 présent, et malheureusement dans la trajectoire de ces ouvriers dont certains ont depuis disparu, vu les conditions de travail qu'ils avaient avec cette maladie qui est le saturnisme, hein, l'intoxication par le plomb. Le film montre l'importance de ces mobilisations sur la santé et la façon dont on peut mettre ainsi en perspective aujourd'hui la réforme de ce qu'on appelle la santé au travail et qui dès ces années-là est prise en charge et prise à bras le corps par les ouvriers eux-mêmes. Donc moi c'est ça qui m'intéressait en particulier dans ces grèves, et c'est ce à quoi ce film fait aussi écho.
Et justement, dans cette mobilisation, on a souvent coutume de dire que les organisations syndicales les plus importantes n'ont peut-être pas pris complètement conscience ou complètement défendu la cause de certains travailleurs immigrés, notamment les moins qualifiés dans les années 60 et peut-être dans les années 70. Et donc, du coup, on a envie de te demander comment sont passées les mobilisations qui étaient à l'origine de ces mobilisations de travailleurs dans cette entreprise.
Alors c'est une question très intéressante. Alors je vais essayer d'aller vite parce qu'elle nous amène très loin. C'est pas simple. Il y avait des sections syndicales. Ce qui est très intéressant à Peñarroya, c'est qu'au fond, les syndicats ont été complètement investis par les ouvriers à l'échelle locale. Je veux dire, les sections syndicales des deux usines ont pris naissance juste avant la grève, par le fait que les immigrés se sont massivement portés candidats aux élections des délégués du personnel et ont créé eux-mêmes une section syndicale. Alors d'abord CGT à Saint-Denis, puis CFDT, puis CFDT à Lyon. Et donc c'est assez paradoxal parce que si on regarde de l'extérieur l'étiquette de ces grèves, si je puis dire ainsi, il y a effectivement une section syndicale, CFDT, mais la section syndicale, elle est faite par une pratique assez particulière et assez caractéristique aussi de ces années-là, qui est une pratique d'assemblée générale, où l'assemblée générale a décidé de qui allait être délégué du personnel, et où au fond, c'est l'assemblée générale qui décide des orientations que doit prendre la section syndicale. Donc c'est un peu une instrumentation de l'institution syndicale qui est très intéressante à regarder, et c'est vrai que les organisations syndicales ouvrières, les grandes organisations, alors la CGT notamment, mais aussi paradoxalement par rapport à l'image qu'on peut en avoir, la CFDT, était un peu, soit pour certaines à la traîne, soit pas centrale dans ces mobilisations-là. Alors effectivement, il y a des sections syndicales, mais elles sont complètement investies par ces travailleurs qui s'en servent et y expérimentent des pratiques que pour certains ils ont déjà utilisées avant dans leur vie militante, notamment dans les luttes anticoloniales. Donc ça c'est pour ça que c'est complexe de répondre à cette question rapidement, c'est que il y a une présence des syndicats à l'échelon local, mais complètement investis par des travailleurs immigrés, et les confédérations sont beaucoup plus frileuses sur ces questions, notamment de santé.
Et les travailleurs ont pu remobiliser ces formes de mobilisation dans d'autres structures. C'est-à-dire qu'on a pu voir émerger des conflits analogues dans d'autres usines à l'époque.
Oui, alors ce qui est très intéressant, c'est que Peñarroya est SEM. C'est-à-dire que la grève de 72, qui est en partie victorieuse, ne marque pas la fin de la mobilisation. Bien au contraire, elle marque le début d'une mobilisation de plusieurs années sur la question du saturnisme, donc de l'intoxication par le plomb, et qui va d'ailleurs aboutir au changement des critères de reconnaissance de cette maladie professionnelle. C'est intéressant de voir comment une lutte d'usine peut arriver par force et répétition de mobilisation à faire changer la reconnaissance des maladies professionnelles. Et donc, à partir de 72, les ouvriers de Peñarroya contactent d'autres ouvriers, d'autres usines, notamment Blindex à Marseille et la société chimique des Mureaux, aux Mureaux, donc dans les Yvelines, et fédèrent comme ça des pratiques, notamment d'enquête sur l'intoxication par le plomb, sur ce qu'ils sentent de leur maladie qui n'est pas reconnue par la médecine du travail payée par l'entreprise. Et c'est intéressant de voir comment dans ces trois usines-là, ils ont recours à des médecins militants, généralement des médecins de quartier, hein, pas des médecins du travail payés par l'entreprise, ça ne marchait pas du tout. Et ils défendent effectivement qu'ils sont malades, et ça, ça se voit dans plusieurs usines, et notamment, je le disais, à Blindex, Marseille, et à la Société Chimique des Mureaux, on retrouve des archives de ces mobilisations-là, qui certaines passent par la grève, et d'autres passent par des formes d'enquête sur la maladie saturnine et des formes de mobilisation qui ne sont pas forcément la grève.
Bien, on aurait évidemment beaucoup à en dire.
J'avais juste une question à vous poser, Laure Pitty. Au sujet du film en lui-même, oui. Est-ce qu'il y a des archives qui restent? Est-ce qu'il y a eu des témoignages? Comment on a pu constituer aussi ce film?
Alors en fait, ce film, il est effectivement, il s'appuie sur des archives, mais bon, je ne peux que vous engager à venir le voir parce que c'est vraiment un travail, cinématographique. C'est-à-dire qu'il y a aussi des acteurs hein, qui rejouent certaines, non pas dans un remake, mais qui redonnent à voir et à penser la trajectoire de ces ouvriers par leur propre travail d'acteur qui. Enfin, dont le scénario s'appuie sur des archives. Alors, ce qui est très intéressant sur les archives, et moi, c'est comme ça que ma recherche a commencé, c'est que la majorité des archives sont chez des acteurs de l'époque, chez des militants. Et que pour le socio-historien qui veut travailler sur ces grèves, il faut aller voir dans ces... excusez-moi, dans ces archives-là. Voilà.
Bah, merci beaucoup.
Merci beaucoup, Laure. Donc, on reviendra peut-être sur cette grève avec toi lors d'une émission un peu plus longue, parce qu'il y aura beaucoup à en dire. On rappelle aussi qu'on fera bientôt une émission sur les transformations de la médecine du travail, qui est un sujet très important actuellement. Il faut préciser aussi pour les plus jeunes de nos auditeurs, pour qu'ils comprennent bien ton propos, que la CFDT était une organisation syndicale dans le temps.
Oui, voire... pour certains de ces militants quasi-révolutionnaires dans le temps.
Un autre temps, évidemment. Et puis, on va rappeler les coordonnées de la projection du documentaire. Donc, ça se passera au Cinéma 104 le vendredi 22 octobre à 20h15. C'est 104 avenue Jean Lolive à Pantin, métro Église de Pantin. C'est 4 euros. On pourra t'entendre ainsi que Tanguy Perron et Jérémy Gravaillin à l'issue de la projection. Et peut-être déjà pour préparer cette projection, on peut retrouver deux petit documentaire en bonus sur les mouvements de Peñarroya dans le DVD Étranges étrangers, un film de Marcel Tria et Frédéric Vario, diffusé par Périphérie dans la collection Histoire d'un film, Mémoire d'une lutte.